Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Depuis que j'ai créé Vlan, il y a un sujet que je voulais traiter, qui est l'éducation, parce que l'éducation, ça me semble essentiel, à la base de tout. Et en même temps, je me posais la question de qui recevoir. Et aujourd'hui, je reçois Zenia Busson, qui est une auteure qui a écrit un bouquin qui s'appelle Exploring the Future of Education et qui a également créé une structure qui s'appelle Landspace, qui est finalement un accélérateur de start-up dans l'éducation. Et ensemble, on parle du futur de l'éducation, des modèles qu'elle a pu voir dans d'autres pays et comment on peut s'en inspirer, des profils atypiques d'enfants. On parle aussi des grandes écoles un peu plus tard. Simplement, avant de vous laisser avec cette conversation, je voulais vous demander, je fais pas très souvent, mais si vous pouviez, et ça aide vraiment beaucoup ce podcast, de laisser des commentaires sur Apple Podcast avec des petites étoiles ou avec un commentaire. Ça permet aux autres personnes de découvrir le podcast et de le faire remonter dans les algorithmes, hein, pour être tout à fait honnête. Donc ça m'aiderait pas mal. Voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Svenia.
Bonjour.
On va parler d'éducation et ça tombe bien parce que toi, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Exploring the Future of Education » où tu as finalement fait le tour des pays de l'Europe pour voir quelles étaient les meilleures pratiques dans ces différents pays. Et c'est quelque chose que tu continues à faire parce que tu pars bientôt en Afrique pour faire la même chose. Tu as aussi créé une boîte qui s'appelle « Landspace » où tu accélères des startups dans l'éducation. Et en fait, ce sujet de l'éducation, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le traiter. En réalité, parce que ça me semble évidemment essentiel. Et en même temps, comme c'est un sujet que je maîtrise pas, parce que j'ai pas d'enfants et que voilà, je savais pas qui inviter. Et donc on m'a dit non mais faut absolument que tu rencontres Svenia. Donc voilà, on le fait. donc je suis ravi. Et donc évidemment la première question que j'ai à te poser, c'est pour toi à quoi ça ressemble le futur de l'école?
Vaste question, le futur de l'école. je dirais qu'en fait, le futur de l'école ou de l'éducation en règle générale, c'est une éducation qui est beaucoup plus personnalisée, tu vois, centrée sur l'apprenant, sur son individualité. Et aujourd'hui, on est dans un système de masse, tu vois, qu'on a créé pour des raisons évidentes il y a bien longtemps déjà, et qu'il faut aujourd'hui transformer parce que notre monde ne ressemble en rien à ce qu'il était à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que chaque enfant trouve sa place. Et il ne peut pas trouver sa place dans un système aussi massifié que celui qu'on a actuellement, en fait.
Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu dis ça, parce que, en fait, sur mon compte Instagram, donc le compte Instagram du podcast, j'ai posé la question aux followers, enfin aux personnes qui suivent ce podcast, qui suivent le compte, quelles étaient les questions qu'ils avaient à poser sur ce sujet. Et effectivement, majoritairement, les questions qui sont revenues, c'est comment on fait pour les enfants qui ont des troubles 10, comment on fait pour les enfants qui sont surdoués, comment on fait pour les enfants qui sont hypersensibles,
qui sont vraiment
des questions spécifiques finalement.
Mais c'est essentiel cette question parce qu'en fait, ça nous montre bien, en fait, chaque enfant est différent. Il n'y a pas, aujourd'hui, bien sûr, il y en a quelques-uns qui rentrent dans la norme, dans le moule en fait, hein, qu'on leur propose, mais en soi, chaque enfant est différent, chaque enfant part avec un bagage totalement différent. Donc pour moi, c'est un peu une aberration, si tu veux, qu'on fasse encore cours à 30 élèves de la même façon, quoi. Mmh. Et, Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire de la personnalisation. Et on pourrait s'y atteler. Mais c'est vrai que, voilà, on est encore dans un système, voilà, qui est un système de masse. Ouais, exactement. Ouais.
Et alors, justement, les dysfonctionnements du système éducatif aujourd'hui en France, il y a évidemment ce système de masse. Est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements que tu as pu relever sur la France ?
Alors, en France en particulier, moi je dirais que tout simplement, nos enseignants ne sont pas assez valorisés, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, être enseignant en France est tellement dévalorisé que personne ne le veut devenir. Et on a un gap énorme entre le nombre d'enseignants qui est demandé aujourd'hui pour voilà, être partout sur le territoire et le nombre de candidats finalement au CAPES, à l'agrégation, etc. Et je pense qu'il faut absolument revaloriser ce métier parce qu'il est essentiel. C'est eux qui forment nos enfants au jour le jour. Il faut les former, il faut les valoriser et ça tout au long de leur carrière. Et d'autres pays, par exemple, que j'ai pu observer dans le cadre de ce bouquin que j'ai écrit, par exemple en Finlande, c'est un peu, tu vois, l'exemple typique, mais en Finlande, devenir prof, c'est un truc mais de fou, quoi. C'est-à-dire que devenir prof, c'est un métier tellement valorisé qui... Voilà, qui attire tellement de monde que tous les lycéens, à la fin, s'inscrivent à la fac d'éducation, veulent être prof. Et donc, il y a à peu près, sur la fac, sur la région d'Helsinki, il y a peut-être 10% de gens qui sont pris pour être prof à la fin, quoi. Donc, si tu veux, c'est aussi bien réputé qu'être médecin ou qu'être avocat. Et c'est la profession numéro un, quoi, que tout le monde veut faire. Parce que, en Finlande, il y a cette culture de la transmission, d'être dans le partage de connaissances, etc. Et comme la Finlande, si tu veux, est un pays où il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas grand chose, à part des forêts et des lacs, c'est quand même, voilà, ils misent tout sur le capital humain. Ils misent tout sur l'éducation et ils investissent à fond et clairement, ça, on a des très, très bons résultats aussi.
Et ils misent aussi sur les... Enfin, il y a une question de salaire ou c'est une question de reconnaissance sociale ?
Forcément, ils ne sont pas si bien payés que ça. Alors oui, bien sûr, ils sont mieux payés que les profs français, mais ça, ce n'est pas difficile. Hein. Mais en vrai, c'est la reconnaissance sociale. Et ça, c'est important, je pense.
Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en France, on avait cette reconnaissance sociale. C'est-à-dire que quand tu réfléchis finalement au village, les métiers clés, finalement, c'était le policier, le postier, le pompier, le professeur, tu vois, qui étaient les métiers clés dans le village et qui étaient extrêmement respectés. Et en fait, tous ces métiers-là, finalement, le médecin, donc l'infirmière, etc., qui sont tous des métiers, finalement, à part le médecin qui reste dans son statut, entre guillemets, bourgeois, tous les autres sont des métiers qui sont assez dévalorisés, finalement, mal payés et dévalorisés.
Mais tu sais pourquoi? Je pense que ça a à voir avec, si tu veux, le savoir qui était entre les mains du maître. Et donc, aujourd'hui, le savoir, il n'est plus dans les mains du maître. Le savoir, il est partout. Et donc aujourd'hui, le rôle pour moi de l'enseignant et ce que je vois dans beaucoup d'écoles quand je sillonne le monde, c'est vraiment un rôle qui évolue, qui change. L'enseignant, il devient un coach, un mentor, il devient un facilitateur d'apprentissage plus que quelqu'un qui va délivrer un savoir en mode top-down, tu vois, je me place devant vous et je vous délivre ce que je sais. Et avant, c'était ça. Et donc évidemment, il y avait ce respect, si tu veux, face à tout ce savoir. Mais aujourd'hui, voilà, le savoir est partout, la théorie on peut aller la chercher autre part. Ce qui importe, c'est l'échange, c'est la pratique, c'est comment on apprend aussi par le faire, comment on apprend par les projets, comment... Et ça, c'est des choses dont on sait aujourd'hui qui ont un impact bien plus important sur notre cerveau,